Alors j'ai terminé la dernière fois, ou j'ai commencé d'ailleurs aussi la dernière fois, avec la question comment approcher, comment entendre pour nous les lettres du Nouveau Testament. Qu'est-ce que ces lettres nous font entendre, sentir, suite et fin de la semaine dernière, d'autant plus que plusieurs étaient prêts à me lyncher à la fin, donc vous me lyncherez peut-être à la fin de celle-ci. Voilà. Comment approcher, comment entendre pour nous les lettres du Nouveau Testament ? Qui ne nous sont pas, c'est là que c'est que mettre mal à l'aise, qui ne nous sont pas directement adressés. Alors il faut que je saute des... J'ai prévu plus de choses, mais j'ai pas assez de temps pour... Je vais à l'essentiel. Je note aussi que j'avais posé enfin la dernière fois la question de l'Esprit de Dieu, son action quand nous lisons la Bible. J'en parlerai pas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Donc, comment entendre pour nous les lettres du Nouveau Testament ? Pour essayer de nous le faire sentir, je propose de parcourir, tout simplement, si je puis dire, un exemple, enfin quelques extraits d'une lettre, un exemple que j'ai pris au hasard, c'est-à-dire assez arbitrairement, j'aurais pu prendre autre chose. Ça va être la première lettre à Timothée. Et pour reprendre ce que je disais la dernière fois, la première lettre à Timothée qui était adressée à... Merci, c'est ça. À Timothée. Et je disais la dernière fois, pas à nous. C'est là que... Voilà. Mais qui, je le crois, nous concerne. Du coup, comment on fait avec tout ça ? Donc, des exemples à partir de quelques extraits du début. Et chaque fois, ce sera assez général et approximatif. C'est juste pour donner l'idée de l'essentiel. Et je vais faire explicitement à chaque fois ce mouvement... D'abord entre Paul et Timothée, s'arrêter un moment sur Paul, Timothée, leur correspondance, et puis dans un deuxième temps, venir jusqu'à nous. Parce que je le fais à plusieurs reprises, parce que c'est ce mouvement que je préconise, que je recommande, que je voudrais nous inviter à cultiver très consciemment et à pratiquer. Mais soyez pas trop inquiets, normalement ça ne doit pas être trop compliqué. Moins que la dernière fois. Je lis le début. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Paul, à Timothée, mon enfant véritable, dans la foi. Donc si vous en doutiez encore, ben voici une lettre qui s'adresse à Timothée, vous l'avez dit. Et je vous taquine, pas à nous. Nous ne sommes pas les enfants dans la foi de l'apôtre Paul, pas directement en tout cas. Et en même temps, alors on passera d'une image d'Éphèse à une image de Villefontaine, vue d'en haut, et en même temps, nous aussi, nous pouvons entendre que Paul est devenu apôtre de Jésus, par ordre de Dieu. Nous pouvons entendre, nous aussi, que Dieu veut nous sauver. Et si nous sommes chrétiens, nous pouvons reconnaître, nous aussi, que Jésus-Christ est notre espérance. Donc nous sommes concernés. Et j'ai envie de dire, s'il s'agit de salut, au sens où le mot est employé là, c'est que nous sommes vitalement concernés. Donc, écoutons. Écoutons la suite. Grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Paul fait ce vœu, il fait cette prière pour Timothée. Et nous pouvons penser, nous aussi, aujourd'hui, en tout cas, je suis prêt à penser que ce vœu de Paul, cette prière que Paul exprime, c'est aussi ce que Dieu souhaite, propose à tous ceux qui voient en Jésus-Christ leur Seigneur, ce que Dieu offre, ce que Dieu dispose devant tout chrétien, d'hier comme d'aujourd'hui. Et j'ai parlé des chrétiens, mais j'ai envie de vous proposer d'entendre là, c'est en tout cas ma lecture, un appel qui fait écho peut-être à la soif de tout humain. Est-ce qu'il n'y a pas au fond de nous quelque chose qui crie pour la paix, qui qui est avide, assoiffé de grâce, de pardon. Et j'ai envie de dire que le lecteur du Nouveau Testament peut même mesurer que Dieu a déjà pourvu à tout cela. Dieu propose sa grâce. Dieu a déjà manifesté sa compassion. Nous en avons fait mémoire en première partie de culte, la mort de Jésus-Christ. Dieu a mis en place ce qui est donneur de paix. Donc ce vœu ne s'adresse pas à nous initialement, mais à Timothée, mais il nous concerne, je crois, aujourd'hui. Je continue la lecture. « Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements et de ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats plutôt que l'intendance, le service de Dieu qui s'exerce dans la foi. » Donc je lis, je paraphrase, hein. Paul a encouragé Timothée à rester à Éphèse. Et Timothée avait là une mission particulière. Paul l'a décrit. Je ne la relis pas. Mais rien qu'en disant ça, nous mesurons que cette lettre, comme en fait toutes les lettres du Nouveau Testament, est bien un écrit de circonstance. C'est bien lié, c'est bien dit dans une situation particulière, à une personne particulière, qui a une mission particulière dans un lieu particulier. Et à une époque particulière. Bon, je ne rajoute pas d'autres. Ce que nous comprenons aussi, c'est qu'à Éphèse, apparemment, il y a des personnes qui enseignaient des choses qui n'allaient pas, qui s'attachaient à des choses secondaires. Alors, il ne s'agit pas d'Éphèse, là, toute la ville, il s'agit de l'église d'Éphèse. Et donc, il y a des personnes qui sont un peu des fauteurs de troubles dans l'église d'Éphèse. Alors, et nous ? Alors, de toute évidence, j'insiste, nous ne sommes pas Timothée, nous ne sommes pas à Éphèse. À ma connaissance, mais bon, je ne connais pas tout, moi, il n'y a pas dans l'Église de personnes qui propagent des fables, j'espère, ou des généalogies sans fin. Donc, en première approximation, nous ne sommes pas directement, très directement concernés. Pour autant, nous pouvons entendre des choses qui nous concernent. Visiblement, Paul a estimé important qu'on soit attentif à s'attacher à l'essentiel. Alors nous aussi, eh bien, efforçons-nous de nous attacher à l'essentiel. Efforçons-nous peut-être d'une part de ne pas rentrer dans des discussions sans fin, comme dit le texte, spécieuses. Le dictionnaire nous dit « spécieux, qui n'a qu'une belle apparence, qui est sans valeur ». Et appliquons-nous, si c'est nécessaire, à avertir ceux qui entreraient dans des discussions spécieuses ou sans fin, par exemple. Ça va jusque-là ? Il y a une personne qui m'a dit oui. Là, il y a une personne qui suit. Encore une étape, et puis je prendrai un petit peu de recul. Le but de cette injonction, j'ai sauté quelques versets là, je crois. Non, pas encore. Il y aura deux étapes. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns étant passés à côté de tout cela ont dévié vers des discours futiles. Ils veulent être des maîtres de la loi, de la Bible si vous voulez, et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, pas même ce qu'ils affirment catégoriquement. Donc, suite de ce que Paul dit à Timothée, l'essentiel, c'est un amour authentique, c'est une foi vraie. Et il se trouve qu'à Éphèse, bien certains sont très forts pour bavarder, pour prêcher peut-être, je ne sais pas, qu'ils en jettent en tout cas, qu'ils impressionnent. Waouh ! Mais par contre, quand il s'agit de vivre, quand il s'agit de comportement chrétien, quand il s'agit d'autre chose que de faire des discours, eh bien apparemment, c'est zéro pointé, même si on impressionne. Éphèse, et bien certainement que ça peut nous concerner aussi. Si nous étions dans ce cas de figure, ça nous concerne à la fois indirectement donc, et très directement aussi. Je passe au verset 18. L'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages de prophètes énoncés précédemment à ton intention, c'est que, t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée, l'ont rejetée, et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc Paul rappelle à Timothée son itinéraire particulier, des paroles prophétiques qui le concernaient, je ne sais pas, voilà, il n'en dit pas plus, et il en tire les conséquences. Eh bien, il l'invite à lutter pour garder la foi, pour garder une bonne conscience. Alors, nous ne sommes pas Timothée. Peut-être aucune parole prophétique n'a été dite à notre propos à nous, mais l'invitation à garder la foi, l'invitation à garder une bonne conscience, je crois que ça nous concerne aussi. Alors je pourrais continuer comme ça un certain temps. Je vous invite à prendre juste un peu de recul. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, à chaque fois, l'effort, entre guillemets, consiste à essayer juste d'entendre, de redire ce que dit le texte. Qu'est-ce qui se passe dans la situation d'il y a 2000 ans? Et je me dis, quand je le lis très, très consciemment, qu'est-ce que Paul dit à Timothée ici? Ou bien aux Thessaloniciens, si vous lisez Thessaloniciens, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Qu'est-ce qui est en jeu? Et à partir de là, eh bien, j'essaie de me dire, ok, je ne suis pas Timothée, qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qu'il est légitime de retenir pour moi? Il y a des choses tout de suite que je vais écarter d'emblée. Il nous dit qu'il est allé à Éphèse, mais moi j'habite à Villefontaine. Donc pas à Éphèse. Puis je vis 2000 ans plus tard. Bon, c'est pas le même contexte, c'est pas le même monde, c'est pas la même mission aussi, sans doute. Je dis mission, je parle pour moi, mais je parle à moi qui, où j'essaie de vous englober tous, c'est pas moi comme pasteur, c'est tous, voilà, on n'a pas la mission les uns et les autres que Timothée avait de la part de Paul. C'est juste ça. C'est juste ça. En fait, l'essentiel de ce que je veux juste partager, c'est ça. Après, ça va un petit peu se compliquer, mais c'est, voilà, si vous décrochez maintenant, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et en fait, tout bêtement, j'ai envie de dire, bon, ben, tout ça, plusieurs vont me dire, mais ça nous plaît, c'est évident. C'est évident. Ben oui. Je me dis que c'est vraisemblablement ce que chacun de nous faisons assez spontanément, en fait. Sans que ce soit nécessairement conscient. Chacun de nous sait bien qu'on n'est pas Timothée et qu'on n'est pas à Éphèse. Donc chacun de nous qui s'intéresse à la Bible, qui la prend au sérieux, pas forcément le cas de tout le monde, quand il la lit, consciemment ou non, il est en train de filtrer, si je puis dire. Je veux dire qu'il y a des choses qu'il écarte, non pas parce que c'est pas la parole de Dieu, mais c'est juste que ça correspond pas à sa situation. Il y a des choses que nous écartons d'une certaine façon. Et puis des choses que nous retenons. Et puis là, j'ai parlé d'écarter, mais je vais le dire de manière plus juste. Avec plus d'exactitude, il faudrait dire qu'en fait, chacun de nous est en train juste de transposer. Il lit et il retient et il rapporte pour lui ce qui traverse toutes les époques. Et c'est pas compliqué, je crois. Enfin, j'espère que les exemples que j'ai donnés vous ont pas paru compliqués. Il me semble que c'est pas compliqué, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles, d'avoir des diplômes en théologie ou en je ne sais quoi, d'avoir passé de doctorat. Mais je voudrais juste, même si je dis quelque chose qui va de soi, faire apparaître que ça se passe comme ça. En avoir conscience. Parce que ça pourra nous éviter, notamment de dire des choses, je cite une phrase que j'ai entendue, pas ici, rassurez-vous. Le texte décrit exactement notre situation. Ben non, c'est pas exactement notre situation. Il décrit une autre situation, mais cette situation, elle concerne peut-être la nôtre. Oui, ça d'accord. Pour moi, en tout cas. Première chose, l'essentiel, c'est ça. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui permet de faire la transposition? De passer de Timothée à nous, d'Éphèse à Villefontaine, à Bourgoin, Jailleux et où que vous habitiez. Ben c'est simplement C'est très simple. Si c'est l'analogie, c'est ce qui nous paraît commun, ce qui nous paraît analogue, ce qui nous paraît. Oui, là, il y a des choses qui sont dites à l'époque, mais aujourd'hui, il y a des choses un peu analogues qui se passent et ça me concerne. Dans la lettre à Timothée, nous nous rapportons spontanément à ce qui est donc pas des choses qui seraient identiques, parce que c'est pas identique, mais à quelque chose d'assez voisin, on va dire ça comme ça. Je reprends un texte. Paul appelle Timothée à Éphèse à mener le beau combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et nous nous disons tout simplement, tout spontanément, mais que si c'était à nous que Paul écrivait, eh bien il nous dirait sans doute la même chose. Il aurait le même vœu, il aurait la même insistance, la même prière. Alors, eh bien, entendons-le pour nous. Nous nous cherchons chaque fois, là où il y a dans cette lettre de Paul à Timothée, dans cette correspondance entre Paul et Timothée, nous cherchons à chaque fois là où il y a de la correspondance pour nous. Et quel principe, si je puis dire, vaut pour les deux situations ? Paul dit ça parce qu'il a, il y a ça qui compte, et il dit à Timothée, dans ton histoire à toi, voilà comment ça doit se transmettre, s'appliquer, et puis nous disons, ok, ça compte, comment dans notre histoire à nous, ça s'applique. Parce que le principe, si je puis dire, il s'applique aussi à nous, il nous concerne aussi. Et ce principe, ça peut être quelque chose comme ce que nous avons lu dans le texte, le but, là il dit son intention, il dit ce qui le porte, donc il dit ce qui compte. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Donc là, j'ai dit l'essentiel, et je suis prêt à penser que c'est, pour la plupart d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites tout seul, hein, déjà, tout simplement. Peut-être pas de manière si consciente, là je m'y arrête, je prends bien le temps, mais c'est probablement ce que la plupart font. Alors je rajoute un deuxième élément, pour nous faire sentir là que c'est, voilà, ça c'est un peu le schéma, après c'est pas toujours tout simple. Même si à première approximation, ça peut paraître simple. Donc je continue la lecture pour prendre des exemples qui me paraissent assez facilement manipulables, résumables. Si on continue la lecture au chapitre 2, verset 8, on arrive à ce passage. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. Alors, ça paraît a priori simple. Paul semble appeler tout le monde à prier. Et il dit ça à Timothée. Et en première approximation aussi, est-ce que j'ai la bonne diapo ? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas prévu la main. Oui, alors j'ai pas la diapo où on voit Villefontaine, donc imaginez qu'il y a la photo de Villefontaine. En première approximation, ben nous disons aussi ben, qu'il pourrait nous dire la même chose, Paul. Tout le monde est invité à prier. Première approximation, et j'ai envie de dire d'accord. Et en même temps, deux détails du texte. Si on y est attentif, il faut admettre que Paul ne demande pas simplement à ce qu'on prie. Il demande à ce qu'on prie en élevant des mains saintes. Alors déjà, est-ce que nos mains sont saintes ? Ça veut dire quoi ? Là, je laisse de côté parce que voilà. Mais déjà, tout simplement, ça même. Qui est-ce qui a prié tout à l'heure ? Je vous ai vu. Hein. Qui est-ce qui a prié tout à l'heure en levant des mains ? Qui a l'habitude, indépendamment de notre moment de culte, qui a l'habitude de prier en levant les mains ? Alors vous me direz, mais c'était, et vous aurez raison, c'était la façon de prier des Juifs à l'époque. C'est vrai. Est-ce que c'est limité à cette époque ? Je ne vais pas répondre à la question parce qu'elle ne me paraît pas importante, mais je veux vous faire sentir que quand nous retenons, pour nous, Paul nous invite à prier, on est tous invités à prier, là aussi, lorsque nous transposons, nous faisons des choix. Et je veux juste le faire apparaître. Donc, je le redis autrement, si nous disons que Paul appelle tout le monde à prier, nous avons filtré. Nous avons retenu une partie du texte, peut-être sans même nous en rendre compte. La question, c'est est-ce que c'est légitime d'avoir filtré comme ça ? Est-ce que le principe c'est de prier ou est-ce que c'est de prier aussi en élevant les mains? Et ça vous rappellera peut-être des débats que vous avez avec des personnes, mais il y a certains qui disent non, le texte dit il faut prier en levant les mains. Si tu lèves pas les mains, ça va pas. Ça va être sur cette question-là ou sur d'autres. Ça, c'était la première question. D'autre part, je ne sais pas si vous avez noté, mais je viens de paraphraser le texte en disant « Paul semble appeler tout le monde à prier ». Mais c'est pas ça. Il appelle les hommes. C'est-à-dire, si vous lisez le grec, mais bon, là, mais même si vous ne lisez pas le grec, on peut s'en rendre compte, j'y arrive, les personnes de sexe masculin. La traduction française, elle est juste, en fait. Il n'y a pas de souci sur la traduction française, mais elle est ambiguë. Parce qu'en français, le mot homme peut être compris autant de tout le monde, hommes et femmes, que des hommes spécifiquement, et pas forcément des femmes. En grec, la question ne se pose pas. Donc, lisez le texte grec, ce sera beaucoup plus clair. Enfin bon. En fait, même si vous lisez pas le grec, rassurez-vous, parce que si vous continuez la lecture, normalement, qu'est-ce qu'il dit? Même si vous comprenez pas le grec, peu importe, même si vous continuez la lecture, normalement, c'est possible de le voir, parce que on lit juste après la chose suivante. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent non pas de tresses, d'or, etc., mais aussi d'œuvres bonnes. Donc on entend bien là qu'il y a deux choses qui se répondent. Les hommes ont une invitation spécifique, les femmes ont une invitation spécifique. Et la question que je me pose, en tout cas moi, comme lecteur, c'est mais pourquoi est-ce que Paul a adressé ces invitations spécifiques? Pourquoi est-ce qu'il appelle les hommes masculins à prier? Est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas appelées à prier non plus? C'est la question que je me pose. Pourquoi les hommes sont-ils singularisés? Et la question que je me pose, pour essayer de répondre à la première, c'est dire, est-ce que ça s'explique dans le contexte de l'époque, le contexte d'Éphèse? Et je ne sais pas. Alors, vous allez me dire, ça commence à devenir embrouillé, mais je ne veux pas que ça devienne embrouillé. Ce que je veux faire apparaître, c'est que je pense que l'invitation, on la comprend. Elle est claire. L'invitation, elle est... Voilà, ça va. Mais il y a quelque chose, parfois, et c'est le cas ici, pour moi en tout cas, il y a quelque chose qui me manque, si je veux la comprendre pleinement, complètement. Et du coup, et ça me paraît un peu, très important, je mesure que le texte biblique ici, et je crois parfois ailleurs, m'est un peu plus étranger en fait, que ce que ma première approximation me disait. Et c'est pas toujours si facile de comprendre pourquoi les choses sont dites comme elles sont dites. Alors, il y a des explications, hein, bien sûr, mais on n'a pas d'explication évidente tout de suite. On peut faire des hypothèses, et on en fait. Et puis, ceci dit, j'ai même pas posé la question. Ok, Paul dit ça au... et pour nous, ça veut dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être juste les hommes qui prient et les femmes qui... Je veux pas rentrer là-dedans, mais juste... Ce que je dis, c'est que comme nous ne sommes pas à Éphèse... Comme nous n'avons pas l'apôtre Paul à qui nous pouvons écrire en disant « Ouais, t'as écrit ça, Paul, mais tu pourrais juste m'expliquer, là, c'était juste les hommes ou c'était les hommes et les femmes ?» Enfin, non. Si nous voulons chercher à tout saisir en détail, ben, nous sommes parfois conduits juste à des hypothèses. Et des hypothèses, et quand nous partageons nos hypothèses ensemble, parfois, ben, on se rend compte que les uns et les autres, ils n'ont pas forcément la même hypothèse. Et il y a cette diversité qui est là, je voudrais l'illustrer aussi à partir d'un verset qui est juste avant, c'est le verset 3, où nous lisons la chose suivante. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. On retrouve tous les hommes, hein, mais c'est pas les mêmes, en l'occurrence. C'est tous les humains ici. Voilà, on peut très bien traduire tous les hommes, certaines traductions le font. Donc, Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, il me paraît très, très, très spontané de comprendre que c'est un texte à verser au débat. Est-ce que Dieu veut sauver chaque homme individuellement? Eh bien oui, Dieu veut que tous les humains soient sauvés. C'est pas un mais. On peut aussi comprendre, dans un contexte que je vais projeter et qui parle de classes de personnes, qui parle de rois, je vais le lire, de personnes en position d'autorité, on peut comprendre en fait toutes sortes d'humains. Je vais m'expliquer. Je lis le texte. Donc ça, c'est à partir du verset 1, je crois. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une traduction littérale, une traduction qui cherche le texte le plus proche. Pour traduire, il faut traduire tous les humains. Voilà, ça c'est OK. Mais le sens, c'est quoi? Est-ce que c'est chaque humain individuellement, ou est-ce que c'est des humains de toutes sortes de conditions sociales? Autrement dit, je paraphrase, ne priez pas seulement que pour vos voisins, vos amis, priez aussi pour les responsables politiques, parce que Dieu veut que ces humains-là aussi soient sauvés. On peut reformuler toutes sortes d'humains. Et du coup, on peut hésiter entre ces deux possibilités. Et puis, comment Paul a-t-il voulu dire les choses? Alors, j'ai ma préférence, mais j'ai envie de dire fondamentalement, je fais une hypothèse, je ne sais pas. Et on peut en discuter, on peut en débattre. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au minimum... Donc voilà, on peut s'attarder sur la difficulté en disant « Mais c'est quoi qu'il faut choisir ?» Et c'est OK. C'est... Mais on peut entendre aussi qu'au minimum, Dieu nous invite à prier pour toutes sortes d'humains. Ça, c'est le minimum. Je ne sais pas si c'est ça exactement, uniquement que Paul avait en tête, mais ça, au minimum, je peux prier pour toutes sortes d'humains. Donc du coup, je peux prier aussi pas mal pour tous les humains, au bout du compte. Donc, pratiquement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Et pratiquement, pour ma part, alors là, je parle pour moi, comme j'ai pas envie de rentrer dans de grands débats de prise de tête, je vais oser dire que je vais commencer par le minimum. Le minimum, c'est de prier pour toutes sortes d'humains. Ça, je suis sûr. Ça, je peux le faire. Je vais commencer par là, et peut-être pour moi, ça me suffit, dans un premier temps. Parce que j'ai envie aussi, pratiquement, d'entendre ici et ailleurs, ce que j'ai écarté tout à l'heure. Ah, pardon, j'aurais dû le faire là. Ce que j'avais évoqué en première approximation, Paul disait, je reprends ce texte, le but de cette injonction, c'est l'amour. L'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns sont passés à côté de ça, ils ont dévié vers des discours futiles, ils veulent être des maîtres, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et je me dis... Alors je fais un choix, là aussi, je fais le choix de prendre ce texte et de le rapporter à ce que j'ai dit précédemment. Je me dis qu'à rentrer dans des subtilités, dans des débats subtils, il y a des moments où on s'expose à perdre de vue ce qui ne fait pas débat et ce qui compte parfois davantage. On préfère penser qu'on sait, il faut convaincre les autres, alors on va taper sur la table et puis ils ne vont pas quitter la pièce tant qu'ils ne vont pas être d'accord avec nous. On argumente et on argumente sans fin. Eh bien, je me dis que pour entendre la Bible, chacun d'entre nous, on n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé d'être sûr de tout. Et pour ce qui me concerne en tout cas, vous savez probablement que je peux prendre plaisir à discuter des nuances subtiles du texte. Mais j'ai envie de dire d'abord, je vais essayer de m'efforcer de faire ce que je comprends. Est-ce qui me paraît sûr? Et ici, il s'agirait de prier pour toutes sortes d'hommes, prier pour mon voisin, prier pour les autorités. Il s'agirait ici de l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie, et de ne pas se perdre dans les trucs qui prennent la tête. Je conclue, j'essaie de résumer, de ramasser. La démarche ordinaire qui me semble à suivre, c'est voilà, chercher à comprendre le texte dans son contexte, saisir ce que nous pouvons en prendre pour nous aujourd'hui, et puis se demander, ben aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce texte biblique dans ma vie, dans mon histoire, moi? L'approche probablement la plus spontanée que nous avons du texte, elle est sans doute largement suffisante. Et elle permet généralement de saisir, je crois, l'essentiel. Et en même temps, continuons à être attentifs au texte, au contexte, cherchons à mieux l'être, parce qu'on aura parfois quelques surprises. Et oui, parfois, on n'est pas tout à fait sûr. et parfois probablement aussi, peut-être on va choisir une hypothèse, mais c'est peut-être pas la bonne. C'est comme ça. Mais ce que Paul fait sentir ici, c'est que la vie chrétienne, si elle tient à prendre la Bible très au sérieux, elle se dit aussi, elle se dit en même temps dans autre chose, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Je termine par les derniers mots de la lettre à Timothée. Ô Timothée, ah pardon, je ne sais pas encore. Ô Timothée, j'ai envie de dire, et nous tous, gardons ce qui nous a été confié, en évitant les discours vides et profanateurs et les contradictions de la pseudo-connaissance. Quelques-uns, pour y avoir prétendu, sont passés à côté de la foi. Que la grâce soit avec vous. J'aimerais juste laisser, on n'a pas beaucoup de temps, mais un moment éventuellement pour échanger si l'un ou l'autre a quelque chose qu'il aimerait dire ou une question. Juste laisser la possibilité. Ou il n'y a pas forcément, mais tardez pas trop à le faire. Oui, Lydie. Alors voilà, donc je t'entends, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais voilà. Le texte peut être mis dans le sens de l'autre ou dans ce sens-là. C'est la question de la prédestination. Large débat. Là, c'est très concrètement un sujet qui va diviser des chrétiens évangéliques qui sont attachés à la Bible de tout leur cœur. Et je crois qu'il nous faut vivre avec la diversité à ce niveau-là dans l'Église. Mais voilà, éventuellement une autre fois. Autre réaction, remarque, et puis on chantera un dernier chant. Eh bien, si je suis de toute façon disponible pour échanger après, ou je vous propose de chanter Béni sois-tu.